Chapitre 12. Grande querelle et terrible combat entre les héros errants. Après une belle et longue conversation, l'inconnu dit à Don Quichotte : Seigneur, je dois vous apprendre que cet incomparable Cassilde de Vandalie, dont mon heureux destin m'a rendu esclave, n'a payé mes tendres soins qu'en occupant sans cesse ma valeur à des travaux plus grands, plus pénibles que ceux du fameux Hercule. Je viens à bout de tout, Seigneur. Alors l'inexorable Cassilde me commanda de parcourir l'Espagne et de faire avouer le fer à la main à tous les chevaliers errants de cette contrée que madame l'emportait en beauté sur toutes les princesses du monde. Vous me voyez occupé de cette difficile entreprise. J'ai déjà vaincu une foule de chevaliers, parmi lesquels le triomphe dont je m'honore davantage, c'est d'avoir forcé le plus grand, le plus redoutable de nos guerriers, le fameux Don Quichotte de la Manche, à convenir que sa Dulcinée n'était pas digne de disputer la palme à Cassilde de Vandalie. » À ces paroles, notre héros eut besoin de faire un effort pour réprimer sa colère et ne pas répondre par un démenti. « Seigneur, dit-il le plus doucement qu'il lui fut possible, je ne m'oppose point à ce que vous ayez vaincu beaucoup de chevaliers espagnols, mais j'ai de fortes raisons de vous assurer que celui que vous avez pris pour Don Quichotte n'était pas ce guerrier célèbre. Vos yeux sans doute furent abusés. Comment ? Que voulez-vous dire ? J'ai si bien vaincu Don Quichotte que je vais vous le dépeindre. » Et il le dépeignit trait pour trait. Ensuite il ajouta : Voilà, ce me semble assez de détails, et si malheureusement ils ne vous suffisent pas, je porte une épée, Seigneur, qui prouve tout ce que j'avance. Avant d'accepter cette preuve, je dois vous répondre, Seigneur, que ce Don Quichotte dont vous parliez est mon ami le plus tendre, le plus inséparable, le plus intime, que tout ce que je puis faire pour accorder en ce moment la politesse et la vérité, c'est d'imaginer que les enchanteurs ennemis de Don Quichotte ont donné ses traits, sa figure, que vous avez exactement dépeint, à quelques guerriers vaincus par vous. Si je pensais que sur ce point il vous restât la moindre incertitude, je vous dirais alors, Seigneur, que voici Don Quichotte lui-même, prêt à vous détromper à pied comme à cheval. » En disant ces mots, le héros se lève et met la main sur son épée. L'inconnu le regarde sans s'émouvoir. « J'aime fort, répond-il, que l'on me détrompe. Et s'il faut vous parler avec franchise, celui qui vous vainquit transformé ne sera pas fâché de vous vaincre en propre personne. Mais les exploits de nuit ne plaisent qu'aux brigands. Attendons que la belle aurore puisse éclairer notre combat. J'y mets l'expresse condition que le vaincu demeurera soumis aux volontés du vainqueur, pourvu qu'il ne lui prescrive rien de contraire aux lois de la chevalerie. « J'aurais dicté moi-même ces conditions, » reprit le fier Don Quichotte. Aussitôt, les deux héros vont éveiller leurs écuyers et ils leur commandent de tenir prêts leurs chevaux au point du jour pour vider cette grande querelle. Sancho, surpris et tout effrayé, demeura muet à cet ordre. « Frère, lui dit l'écuyer inconnu, vous êtes instruit sans doute de la coutume d'Andalousie. »« Non, répondit le triste Sancho. Je vais vous mettre au fait, mon ami. C'est, lorsqu'on est témoin d'une bataille, de ne point rester oisif. Qu'entendez-vous par ces paroles ? J'entends que pendant le combat de nos maîtres, nous jouerons aussi des couteaux. Ah ! C'est la coutume d'Andalousie. Oui, c'est un ancien usage auquel on ne peut guère manquer. Ainsi, mon confrère, préparez-vous. Monsieur, j'ai l'honneur de vous dire que cet usage, fort vilain, est particulier à votre pays. Mon maître, qui connaît assurément bien toutes les ordonnances de la chevalerie, ne m'a jamais dit que les écuyers fussent obligés de se battre entre eux. Mais enfin, en supposant que ce soit une de vos lois, il doit y avoir une punition pour ceux qui manquent à la loi. Or, je vous déclare d'avance que je me soumets à la punition. D'ailleurs, je n'ai point d'épée. À cela ne tienne, mon cher. J'ai avec moi deux grands sacs de toile. Vous en prendrez un, moi l'autre, et nous nous battrons à coups de sac. « Comme cela, je veux bien. Celui qui frappera le mieux ne risquera que d'ôter la poussière de dessus l'habit de son ennemi. »« Sans doute, mais je dois vous prévenir que, de peur que le vent n'emporte les sacs, nous aurons soin de mettre dans chacun une douzaine de gros cailloux. »« Seulement, diable, comme vous y allez ! C'est avec cet édredon-là que vous faites vos oreillers ?»« Oh bien, monsieur, je vous déclare que quand même vos sacs seraient remplis d'étoupes de soie, je ne me battrai point. » Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de nous battre au moins une demi-heure.
Pas une seule minute.
Il serait beau, vraiment.
Qu'après avoir bu ensemble de ce bon vin que vous m'avez donné si généreusement, nous allassions nous échiner.
Non, non, il n'en sera rien. Je ne peux pas me battre autrement qu'en colère, et je n'aurai jamais de colère contre quelqu'un aussi aimable que vous.
Pardonnez-moi, je sais un moyen. Avant de commencer, je vous donnerai, si vous voulez, une demi-douzaine de soufflets.
Cela réveillera votre colère, fût-elle plus assoupie qu'une marmotte.
Non, monsieur, il vaut beaucoup mieux laisser dormir nos colères. Dieu nous ordonne de vivre en paix. Chacun de nous ne peut qu'y gagner. Tel qui cherche noise finit souvent par se faire frotter. Un chat qu'on pousse à bout devient un lion.
Vous ne savez pas ce dont je suis capable.
Restons en repos, je vous le répète. Le mal qui en arriverait serait sur votre conscience.
Dans ce moment, la brillante aurore s'avançait sur son char d'opale lorsque le pauvre Sancho, jetant les yeux sur cet écuyer avec lequel il avait passé la nuit, pensa tomber à la renverse en découvrant son terrible nez. Ce nez énorme lui ombrageait le visage et descendait de deux doigts au-dessous de sa bouche. Il était de plus surmonté de plusieurs grosses verrues rougeâtres et donnait au reste de la figure un air, un aspect effroyable.
Sancho recula quatre pas, croyant apercevoir un spectre.
Il résolut bien dans son cœur de recevoir 1000 soufflets plutôt que de se mettre en colère contre le possesseur d'un tel nez. Don Quichotte, pendant ce temps, contemplait son adversaire, dont la visière, exactement fermée, ne lui permettait pas de voir le visage. Sa taille n'était pas haute, mais ses membres paraissaient forts. Il portait par-dessus ses armes une casaque de brocart d'or, semée d'une multitude de lunes brillantes comme des miroirs. Un superbe panache de plumes blanches, vertes, jaunes, ombrageait son casque, et sa grosse lance était armée d'un fer acéré long d'une palme. Notre héros jugea que son ennemi devait être redoutable. Il s'en réjouit au fond de son cœur et lui demanda poliment de vouloir bien lever sa visière.
« Je ne montre jamais mon visage qu'après le combat, » répondit fièrement l'inconnu.
« Du moins, » reprit notre chevalier, « daignez me regarder avec attention et me dire si je suis ce Don Quichotte que vous prétendez avoir vaincu. »«
Il est impossible, Seigneur, de lui ressembler davantage. » Je n'ose pourtant rien affirmer, d'après ce que vous m'avez dit des enchanteurs qui le poursuivent.
Il suffit, montons à cheval, cette lance finira votre erreur.
Tous deux, aussitôt, s'élancent sur leur coursier et s'éloignent pour prendre du champ. Les yeux de Don Quichotte se portèrent sur l'étrange nez de l'écuyer. Il demeura surpris à cette vue. Sancho, qui tremblait de toutes ses forces et cherchait à s'éloigner de ce nez terrible, s'en vint supplier son maître de vouloir bien l'aider à monter sur un arbre pour voir, disait-il, plus à l'aise le beau combat qu'il allait livrer.
« Je t'entends, » répondit Don Quichotte, « tu n'aimes à regarder les taureaux que du haut de la galerie.
Monsieur, je ne vous cache point que ce diable de nez me fait un peu peur. Je ne me soucie pas de rester à sa portée.
Je le conçois, mon ami, et si je n'étais moi-même, j'en serais peut-être troublé. »
Le héros se retourne alors pour placer Sancho sur un liège. Le chevalier des miroirs arrivait, dans cet instant, de toute la vitesse de son coursier, c'est-à-dire au petit trot, car ce coursier ne valait guère mieux que Rocinante. Il s'aperçoit en arrivant que Don Quichotte, occupé de son écuyer, n'avait pas encore pris du champ. Il s'arrête pour l'attendre. Notre héros, qui le voit près de lui, se retourne vivement, enfonce les éperons dans les flancs maigres de Rocinante et pour la première fois de sa vie le fait partir au galop. L'inconnu veut en faire autant, mais malgré ses coups de talon, son cheval, essoufflé, demeure immobile. Le pauvre chevalier s'agitait avec ses jambes, avec sa bride, avec sa lance et son écu, quand le héros de la Manche, arrivant sur lui comme la foudre, lui fait vider les arçons et le jette à terre, sans connaissance. Aussitôt à pied, l'épée à la main, il court auprès du vaincu, dont il se hâte de délacer le casque pour s'assurer s'il était mort. Sancho, plein de joie, s'était dressé de descendre de son arbre. Il arrivait lorsque son maître, découvrant le visage de son ennemi, reconnaît, faut-il le dire, et qui jamais pourra le croire, les traits, la figure, la propre figure du bachelier Samson Carrasco. Stupéfait de surprise,
« Sancho, s'écrie-t-il, viens, accours, et juge toi-même du nouveau tour de la malice inconcevable de ces perfides magiciens. » Sancho s'approche, regarde, et reconnaissant le bachelier, qui demeurait étendu sans mouvement, se met à faire de grands signes de croix. « Monsieur, dit-il, c'est égal, commencez par lui passer votre épée au travers du corps, ce sera toujours un enchanteur de moins. »«
Je pense que tu as raison, répond Don Quichotte, ce ne peut être que pour m'abuser et se soustraire à ma vengeance que ce négromant vient de prendre à la figure de Carrasco. »
Il lève aussitôt son épée, mais l'écuyer inconnu, dépouillé de son grand nez, vint se jeter aux pieds du vainqueur.
« Arrêtez, ne tuez pas votre ami, c'est le pauvre Samson Carrasco, c'est lui. N'en doutez pas, monsieur, je vous l'assure, je vous le certifie, vous le jure sur ma conscience. »
« Où est votre nez ? » demanda Sancho. « Le voilà, » répond l'écuyer en le tirant de sa poche et lui montrant un nez postiche.
« Sainte Marie, » ajouta Sancho en considérant l'aiguillet tremblant. « N'es-tu pas Thomas Cécial, mon voisin et mon compère ?»«
Sans doute. Je suis Thomas Cécial et je t'expliquerai pourquoi le malheureux Carrasco et moi nous nous étions ainsi déguisés. Au nom de Dieu, empêche ton maître de le tuer. »
Le bachelier reprit alors ses sens, et Don Quichotte, lui présentant la pointe de son épée,
« Chevalier, dit-il, vous allez mourir si vous ne confessez que la beauté de Dulcinée l'emporte sur celle de votre dame, et si vous ne me promettez d'aller à la ville du Toboso vous remettre à la discrétion de cette illustre princesse pour revenir ensuite me rendre compte de l'état où vous l'avez trouvée. »
« Je confesse et promets tout ce qu'il vous plaira, répondit d'une voix faible Carrasco.
« Ce n'est pas tout, reprit Don Quichotte. Avouez et croyez que le chevalier que vous avez jadis vaincu ne pouvait être Don Quichotte, mais quelqu'un qui lui ressemblait.
Comme de mon côté, j'avoue et je crois que vous n'êtes pas le bachelier Carrasco, mais quelqu'un qui lui ressemble. »
Vous avez toute raison, reprit le pauvre infortuné. J'avoue, je crois, je pense, je sens que ce que vous dites est la vérité, mais pour Dieu, donnez-moi la main et daignez m'aider à me relever. »
Don Quichotte, satisfait, secourut son ennemi, parvint avec les deux écuyers à le remettre à cheval, et le laissant entre les mains de Thomas, qui le conduisit au prochain village, il reprit, suivi de Sancho, la route de Saragosse.